Alors, j'ai préparé quelques questions pour toi, Rodolphe, mais peut-être avant de commencer avec ces questions, tu veux nous dire où on est et puis ce qu'on a vu tout à l'heure.
Donc c'est ça, ben bonjour tout le monde. Et puis ben ici en fait, vous avez vu le petit panneau à côté tout à l'heure quand on était sur le boulevard Gouin qui expliquait bien que on était sur le réseau, sur la station de pompage qui expliquait l'architecture de la station de pompage du ruisseau Provost. C'est pas Prévost, mais c'est Provost en fait. Et donc il y a un ruisseau qui était en fait un ruisseau donc les autochtones qui habitaient Hochelaga prenaient pour remonter vers Hochelaga. En fait, ils suivaient ce ruisseau-là. Ce ruisseau a la seconde particularité, exactement ici dans cette petite anse que vous voyez, c'est exactement là où Jacques Cartier a débarqué en 1535. Donc vous verrez quand même que c'est quand même assez rigolo de voir qu'il n'y a aucune plaque commémorative de ce lieu. On parle de la station de pompage, mais pas du lieu où a débarqué Jacques Cartier en 1535, le 1er octobre. Donc c'est là la particularité de ce lieu-là. Jacques Cartier, sur des cartes, a intitulé ce lieu, quand lui est arrivé, Saint-Malo, parce que Jacques Cartier, comme vous le savez, était originaire de Saint-Malo, puis ce lieu était quelque chose qui lui rappelait, j'imagine, son port d'attache. Donc ça, c'est le lieu-dit qui s'appelle Saint-Malo, qui n'est absolument plus cartographié maintenant, qui a disparu de toute l'histoire de Montréal, alors que c'est quand même quelque chose qui est avéré. Je veux dire, c'est pas avéré à 100%, puis ça ne le sera jamais, c'est certain, mais c'est quand même un haut lieu de l'histoire montréalaise, on va dire, c'est des colons montréalais. Et deuxième chose qui était quand même d'importance, c'était quand même bien avant évidemment que Jacques Cartier débarque ici, c'était quand même un sentier de portage des Iroquois du Saint-Laurent qui remontait vers le village, vers la montagne. Donc, ne serait-ce qu'à ce propos-là, ça serait intéressant de mentionner quand même ce chemin de portage-là. Il y avait évidemment beaucoup de sentiers de portage sur le long de la rivière des Prairies. Il y en a un qui est ici, il y en a un qui est un peu plus haut, quasiment au niveau beaucoup plus à l'ouest là de l'île, qui remontait aussi. Puis évidemment que ça permettait d'éviter les portages quand on arrivait de la rivière des Outaouais ou quand on arrivait plus par l'est. Comme ça, en canot, on pouvait arriver ici puis directement monter au village sans avoir à affronter les rapides, les sauts de la rivière. Donc d'où l'intérêt de ce petit lieu qui est anodin, qui est au bout d'un terrain vague entre deux maisons. Et puis, il faut quand même savoir que c'est quand même un lieu qui est... Bon, déjà, il y a eu beau, pendant très longtemps, il y a eu quand même eu une controverse à savoir si Jacques Cartier était arrivé par le fleuve ou par la rivière. Maintenant, la controverse n'existe plus. Ça a été vraiment démontré qu'il est arrivé par la rivière. Et ensuite, il restait à savoir où il était, où il avait atterri, où il avait débarqué. C'était ici. Vous verrez aussi l'imprécision des fois là, de ben, des, aussi bien la toponymie que des gens qui font les plaques et ainsi de suite. Quand la prochaine fois que vous allez sur le Belvédère en haut du Mont-Royal, vous regarderez, il y a une belle plaque qui parle de Jacques Cartier, justement, parce que Jacques Cartier, il est arrivé ici le 1er octobre, ils ont dormi sur les bateaux, certainement un peu au large, parce que pour des raisons de sécurité, ils ne dormaient pas à terre, en fait. Ils arrivaient, c'était deux petits bateaux, hein, deux petites barques, parce que les goélettes étaient restées beaucoup plus en aval sur le Saint-Laurent, parce qu'ils ne pouvaient plus remonter plus loin. Donc après, ils avaient pris deux petits esquifs à rames, certainement à voile aussi, pour remonter par ici. 1er octobre, leur arrivée était pas passée du tout inaperçue. Hein, dès le bout de l'île, les autochtones les attendaient, les suivaient pas à pas. Et donc, arrivés ici, ils ont vraiment vu que c'était un endroit où ils pouvaient se poser et débarquer sans problème. Ils étaient accueillis à bras ouverts. C'était vraiment pas du tout. Il n'y avait aucune animosité. Et donc, ils ont quand même passé la nuit. Il y avait beaucoup de monde. Ils ont quand même passé la nuit sur leur barque. Et donc, le 2 octobre, ils ont débarqué. Et dans la même journée, on imagine très tôt le matin, donc ils étaient, il y a eu toute une suite d'autochtones avec des guides qui les ont montés jusqu'à Hochelaga. Donc pareil, la localisation du village d'Hochelaga reste un petit peu un mystère. Vous verrez dans le campus McGill, il y a une plaque, une vieille plaque qui dit ici était le village d'Hochelaga. C'est absolument faux. Ça a été démontré après parce qu'en fait, ils avaient découvert des artefacts qui étaient pas du tout, qui étaient autochtones, mais qui étaient autochtones à post-colonisation. Ce n'était pas avant la colonisation. Et en fait, le village de Chelagas était beaucoup plus au niveau des cimetières actuellement, en fait, entre les cimetières de Mont-Royal et de Notre-Dame, et donc un petit peu dans le vallon qui est entre les pics. Et donc le 2 octobre, Jacques Cartier est monté jusque là-bas. Puis après, à peu près au niveau du on imagine à peu près au niveau du Belvédère. Les gens d'Hochelaga l'ont mené jusqu'au Belvédère pour avoir une vue d'ensemble. Il faut savoir qu'à l'époque, Jacques Cartier n'avait pas conscience que Montréal était une île. Donc il a découvert que, bon, il avait bien vu qu'il y avait le fleuve et la rivière, mais il ne savait pas que ça formait une île complètement. Et donc vous verrez sur la petite plaque qui est en haut du Belvédère, c'est marqué le 3, qu'il était là le 3 octobre. Bon, a priori, ce serait plus le 2 octobre. Bon, ça, on s'entend, c'est des détails. Et puis, donc voilà, donc c'était pour vous dire un petit peu le pourquoi de ce lieu et puis ce trou de mémoire de l'histoire montréalaise. Moi, je me base, pour trouver ça, j'ai pas inventé, là, c'est clair. Je me suis basé sur un vieux livre qui est de Monsieur Eugène Achard, Le chemin de Jacques Cartier vers la bourgade d'Hochelaga. Si vous trouvez ça, vous pouvez vous jeter là-dessus. C'est super intéressant. Ça explique vraiment tout le tracé de Jacques Cartier et ça explique beaucoup de choses. J'ai regardé vite fait hier sur Google. Il est pas. J'imagine qu'il est certainement à la bibliothèque de l'UQAM ou en tout cas à la Bibliothèque nationale. C'est un très bon livre que vous pouvez trouver chez des bouquinistes aussi. Celui-là, j'ai trouvé super bouquiniste qui est sur le bouquiniste, je sais plus son nom. Et peu importe.
Il y a quand même un toponyme qui est resté, un peu de mémoire. En face, c'est Laval des Rapides. Donc, il y a encore les rapides quelque part dans la toponymie actuellement. Alors, ma première question. Rodolphe, tu as mis un peu tes pas dans ceux d'Yves Lacroix, puisque j'ai mentionné tout à l'heure qu'il avait fait le tour de l'île à pied, puis que ça avait donné un atelier, mais Rodolphe n'était pas encore membre de la traversée à cette époque-là. Est-ce que ton projet de faire le tour de l'île était déjà en germe avant de croiser la démarche de Yves, que tu n'as pas connue, je crois? Est-ce que tu peux nous dire ce qui a motivé ton tour de l'île?
En fait, ouais, mon projet date de longtemps. J'avais l'idée de faire le tour de l'île un jour. Ça, c'est peut-être dès les années, début des années 2000, sans avoir une idée comment le concrétiser, ni combien de temps ça me prenait. Enfin, je n'avais pas du tout étudié la question, mais je me suis dit, ah, un jour, tiens, pourquoi pas. Un moment, là, c'était un bon moment pour moi. Puis j'ai intégré ça dans un projet d'écriture plus vaste. Puis à un moment, c'était le bon timing. C'était exactement l'année dernière, à cette époque-ci. J'ai commencé le 22 septembre. Ils annonçaient 5 jours de très beau temps. Et c'était comme un retour de l'été fin septembre là, donc j'avais du temps, c'était le moment, je me suis lancé et en fait j'avais lu le carnet de Rives et Dérives de la traversée qui avait été fait par Yves Lacroix. Donc c'est à ce moment-là, donc j'avais lu quasiment la semaine avant de partir pour juste me préparer un petit peu aussi. Et donc j'avais eu connaissance à ce moment-là du tour de Yves Lacroix et Louise Corbeil, sa conjointe, qui eux ont fait en 2002 ce tour en 19 étapes, c'est-à-dire qu'ils faisaient 10 km d'un côté. Enfin, ils ont fait vraiment en continu comme ça, mais en 19 étapes, ça leur a pris un an et demi peut-être. Ils faisaient ça les fins de semaine, les choses comme ça. Et puis en recommençant exactement où ils s'étaient arrêtés à chaque fois, c'était super intéressant. Et Yves Corbeil, puis après, ben, c'est ça, donc j'ai lu ça. Puis après, au retour de mon tour, j'en parlais avec André Carpentier, qui fait aussi partie de la traversée, que vous avez peut-être pu connaître aussi à l'UQAM, qui était prof à l'UQAM, jusqu'à il n'y a pas
Oui,
longtemps.
mais il est à la retraite.
D'accord.
Je pense que c'était avant que vous arriviez.
et qui est auteur aussi, qui écrit beaucoup sur Montréal, entre autres sur les ruelles de Montréal, les cafés de Montréal et tout. C'est passionnant ce qu'il écrit. Et donc, du coup, j'ai parlé de ça, et puis il m'a dit, c'est lui qui m'a donné le contact de Louise Corbeil, puis il m'a dit, connaissant Yves, il y a certainement des cahiers qui traînent de cette aventure. Puis effectivement, j'ai été rencontrer Louise Corbeil, qui m'a fourni un 200 pages de carnets super détaillés de tout leur tour de l'île. Et donc après, ben, ça m'a conforté dans l'idée de travailler sur ce matériel-là, sur ben, mon matériel à moi, et l'étayer avec d'autres matériels pour en faire un projet d'écriture, en fait, là, ouais.
Tu nous en parleras après
ouais, non,
de
non,
ton projet d'écriture ou
Un autre truc par rapport à ça, ben en fait, c'était dans la genèse aussi, je suis vraiment un adorateur des îles, en fait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les îles, et j'aime bien faire le tour des îles pour. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai fait plusieurs déjà tours d'îles, ben, Belle-Île en Bretagne, entre autres, et puis d'autres îles où. Quand c'est possible de marcher autour, là, j'aime bien faire ça. Puis, ben, pour le tour de Montréal ici, c'est ça. C'est savoir que ça prend. Ben après, il y a toujours des petits détours, là, comme ici, là. C'est environ on va dire entre 160 et 170 km le tour de l'île. Moi, j'avais un tracker GPS qui a pas fonctionné tout le temps, mais a priori, j'ai fait à peu près 160 km. Et donc voilà, donc c'est quelque chose que j'ai fait en 5 jours. Moi, je conseillerais de le faire en plus parce que 5 jours, c'est un peu la course. Je marchais à peu près une trentaine de kilomètres par jour. Donc évidemment, ça laisse moins de temps à l'émerveillement et puis à regarder un peu ce qui se passe autour. Mais c'est puis voilà puis ben moi parce que je savais que le 6e jour il pleuvait beaucoup donc c'est pour ça que j'ai accéléré pour le faire en 5 jours en fait là ouais.
Est-ce que c'est plus difficile de voyager près de chez soi ou que de partir au loin et quel genre de difficultés est-ce que tu as rencontrées?
Non c'est pas plus difficile c'est plus difficile ça dépend de l'environnement on s'entend qu'ici on est en environnement quand même urbain. Et c'est peut-être ça la difficulté. C'est pas difficile de voyager loin de chez soi. Je suis parti de chez moi à pied, je suis revenu à pied. Il n'y avait aucune logistique à avoir. Après, c'est clair que quand on est avec un sac à dos, avec des bâtons de marche, avec des chaussures de marche, et qu'on passe dans des endroits ben, comme ici sur le boulevard Gouin, c'est ça, on passe pas tout à fait inaperçu. Et puis arriver des fois dans des endroits très résidentiels, surtout quand on est en mode ben, géopoétique, justement, on est en train de regarder un peu tout ce qui se passe, les maisons, les gens qui passent, on essaie de regarder par au-dessus d'une clôture pour apercevoir l'eau et ainsi de suite. C'est clair qu'on attire un peu les suspicions et c'est marrant parce que André Carpentier, justement, quand il faisait le tour des ruelles, et son livre, c'est Ruelles, jours ouvrables. Et en fait, il raconte exactement les mêmes choses. Plusieurs fois, il s'est fait alpaguer par des gens en demandant, mais qu'est-ce que vous faites là? Et puis, si les gens étaient suspicieux un petit peu. Puis moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé aussi là d'avoir des regards un peu bizarres. Surtout quand on arrive, pas quand on est dans les parcs, mais surtout quand on arrive dans des endroits très urbanisés, des petits quartiers très résidentiels. Donc ça, c'est clair que oui, c'est. Autrement, je pense que c'est clair que tout ce qui est le voyage local, ben vous en avez vu, je pense, pas mal lu pas mal d'articles autour de ça, surtout dans les conditions actuelles. C'est quelque chose qui est en plein, on va dire, en plein boom, là. J'ai lu dernièrement des choses sur les micro-aventures. Bon, qu'est-ce qu'une aventure? Je veux dire, c'est chacun peut définir son propre degré d'aventure, là. Je veux dire, c'est pas. On s'entend que le tour de l'île à pied, non, c'est pas l'aventure. Mais bon, ça peut devenir l'aventure quand même. Et donc, je pense que c'est intéressant peut-être d'avoir L'aventure, elle est comme le voyage, ça peut être dans, c'est peut-être pas la destination qui fait le voyage, mais c'est plus la route qui fait le voyage. Et puis c'est imaginer un parcours en fonction de son temps. Est-ce qu'on a un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours? Et puis qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme parcours? Après, il n'y a pas de limite. Je veux dire, c'est pourquoi pas de se dire je suis le. Je peux aller jusqu'à Mont-Saint-Hilaire à pied. Il y a un sentier qui est plus un sentier cycliste qui part d'Ottawa qui va jusqu'à Mont-Saint-Hilaire en passant par Oka. C'est une sorte de pèlerinage. Donc ça aussi, ça peut être une aventure locale. Donc des aventures locales, il y en a beaucoup. Je pense pas que ça soit compliqué. C'est plus la fée. Une des difficultés que j'ai eues en faisant le tour de l'île, c'est qu'il y a très peu d'hébergements sur le bord des berges. J'ai trouvé. Puis je voulais pas me limiter à avoir des adresses convenues. Je voulais pas devoir accélérer ou ralentir le pas parce que j'avais un hébergement qui était prévu. Donc je voulais pas trop prévoir mon hébergement au début. Donc j'avais juste la première journée, j'ai trouvé un petit B&B sur Airbnb du côté de Pointe-aux-Trembles, qui était vraiment sur le bord du fleuve, en face de l'île Sainte-Thérèse. Ensuite, dans ce coin ici, c'est là où c'était le plus compliqué. J'avais le choix entre un motel avec pole de danse incluse gratuitement dans chaque chambre. Ça vous donne le genre de motel. Et j'ai dû aller un peu plus dans un cycle pour trouver un logement. Et puis après, c'était la fin de semaine, donc fin septembre. Je pense pas que ça ait lieu cette année, mais c'était fin septembre. C'était la fin de semaine du marathon de Montréal. Et tout était booké. Puis il faisait super beau. Puis en fait, après, puis je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut arriver. J'aurais peut-être pas fait le premier jour ou le deuxième jour, mais après plusieurs jours de marche. Je pense que c'est plus naturel, on se sent plus en confiance. J'ai dormi dehors, sur les bancs, dans les bancs, dans les parcs publics. Et puis, j'étais pas équipé pour ça, mais il faisait beau là, et puis ça allait. Et puis c'était très bien comme ça. Et puis justement, ça a complètement changé mon voyage. Le fait de bivouaquer comme ça dehors, sur des bancs, ben, c'est clair que la première nuit, je l'ai passé à Cap Saint-Jacques. Là, c'était super tranquille. La deuxième nuit, je l'ai passé du côté sur le bord du fleuve, juste avant, un peu avant Dorval. Puis là, c'est certain que en dormant sur des bancs comme ça, on est un peu en condition d'itinérance en fait là. Puis les gens nous regardent comme des itinérants, c'est certain. Donc ça fait partie un peu de c'est pas c'est d'avoir un on a un autre regard sur nous-mêmes puis sur le paysage. Puis on s'aperçoit que c'est pas facile de trouver de l'eau quand on est itinérant, de trouver des toilettes, de trouver des se doucher, on n'en parle pas là. Heureusement il y a le fleuve. Donc voilà. Donc en fait oui, tout ça pour dire que oui, même à Montréal, on peut se créer des petites aventures puis partir un peu à l'aventure comme ça. C'est faisable là, ouais.
Je voulais te demander, est-ce que le paysage riverain est identique tout autour de l'île? Est-ce qu'il y a des grandes différences? Qu'est-ce qui t'a marqué en particulier?
La première chose qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point il y a beaucoup de parcs tout autour de l'île de Montréal. En fait, j'ai pas d'idée vraiment d'un chiffre exact, mais je pense que entre 60 et plus de 60% du temps, j'étais dans des parcs. Comme on a pu voir, le parc Gourgouin, par exemple, ou des choses comme ça. Plus de 60% du temps, j'étais dans des parcs. Et après 5 jours de marche, quand je suis revenu au niveau du bassin Peel, au niveau du Farine Five Roses, là, donc là, en fait, là, il y a le centre-ville qui a explosé devant moi, là, et là, j'ai vraiment l'impression de revenir en ville. J'ai eu l'impression d'être complètement sorti de la ville pendant 5 jours, et là, je revenais en ville au cinquième jour, à la fin du cinquième jour, il faisait nuit, et donc c'était impressionnant, comme j'ai eu vraiment l'impression, ouais, d'être complètement en dehors de la ville. Après, les paysages, oui, c'est quand même très, très différent déjà entre le fleuve et la rivière des Prairies. Il faut savoir que le premier bout, là, le port où on est loin du fleuve, et après les raffineries, c'est pas le plus intéressant, mais il y a quand même des choses à voir. C'est intéressant de voir justement les montagnes des conteneurs, les bateaux, les terrains vagues, tout le trafic qu'il y a autour de ça. C'est quand même quelque chose qui est assez intéressant à voir. Après, non, les paysages, on est toujours dans un. C'est toujours un paysage maritime ou fluvial quand même, et donc toujours près de l'eau. Même on sent l'odeur de l'eau. C'est clair que dès qu'on quitte justement le port, les raffineries, on retrouve l'odeur du fleuve, qui n'a pas la même odeur que la rivière des Prairies. Et donc ça aussi, on commence à avoir des sensations comme ça. Et après, donc ouais, non, c'est quand même assez différent. Puis c'est intéressant de voir, de passer quartier par quartier, quelles sont justement les villes qui sont plus populaires, entre guillemets, dans le bon sens du terme, et les villes qui sont plus exclusives. Ici, on a un très bon exemple, justement. On a la rivière des Prairies. Puis ici, on continue par le où il y a des parcs de temps en temps, comme le parc Nicolas Viel qui est juste à côté. Mais au plus de la moitié du secteur est monopolisée par des propriétés privées qui s'accaparent les rives de la rivière. Côté fleuve, c'est la même chose. Si vous allez du côté de Dorval, il y a deux, trois parcs. Le reste, c'est complètement, complètement monopolisé par des propriétés privées. Par contre, quand vous avez le panneau fin Dorval, début la Chine, là, c'est fou, c'est vraiment la limite même. La Chine commence, c'est du parc linéaire tout le long du fleuve jusqu'à la fin de la Chine. À La Salle, ça recommence un petit peu entre La Salle et Verdun, puis après, arrivé à Verdun, là, c'est de nouveau du parc. Donc c'est vraiment comme des décisions municipales d'ouvrir ou pas l'accès aux rives, aux citoyens. Et c'est intéressant de voir ces différences-là. Ouais.
Là, on est en terrain vague, nature, et puis on a la musique à côté, on a l'avion qui est passé tout à l'heure, les quelques avions qui restent encore, et puis la tronçonneuse un peu plus loin. Enfin, ouais. Je voulais te demander comment tu conçois les rapports entre la marche et l'écriture. Est-ce que c'est le projet qui déclenche la marche, ou bien la marche qui déclenche l'écriture, ou bien est-ce que c'est les deux à tour de rôle? Comment tu conçois ces rapports-là?
Je pense que c'est pas mal. J'imagine que ça peut être vraiment les deux. Pour ce projet-là, ça a vraiment été. J'ai fait le tour de Montréal de Lille pour. J'étais entre deux projets, puis j'avais besoin de prendre du lest, de lâcher du lest, de prendre du large prendre le large pour dire de faire un peu une transition entre deux projets vraiment différents. Donc c'était un peu le but aussi de ce tour de Lille, de déconnecter un petit peu. Et puis c'était. Et au début, oui, je savais que j'allais intégrer ça dans un projet de récit de voyage un peu plus vaste. Sans savoir exactement ce que j'allais en tirer, ni ce que j'allais pouvoir en dire. Puis j'imaginais quelque chose de très court. Puis en fait, au fur et à mesure, puis surtout à la fin de ce tour de l'île là, le tour de l'île est devenu le cœur de mon projet en fait là. Donc voilà, donc ça c'est là où ça a été vraiment un tremplin vers quelque chose d'autre en fait là. Il y avait l'idée d'écrire quelque chose, mais ça aurait pu très bien se limiter à un article de journal, par exemple un article de tourisme là, mais puis voilà, puis après c'est devenu quelque chose de plus vaste, ouais.
Est-ce que c'est l'expérience du terrain qui oriente tes recherches? Est-ce que tu cherches des traces autant dans les lieux comme ici, par exemple? Là, on a, je pense, un bon exemple avec Saint-Malo, mais tu cherches aussi des traces dans les livres. Comment tu navigues de l'un à l'autre?
Pour moi, c'est exactement la différence entre la carte et le territoire. Vous rappellerez le titre de Houellebecq, prix Goncourt en je ne sais pas quelle année, et qui faisait justement la différence entre la carte et le territoire. Et lui disait que c'était la carte qui faisait le territoire. Et puis je pense que c'est une pensée très urbaine. En fait, j'ai un collègue à moi, Inou, qui est du côté de cette île. Dernièrement, m'a écrit quelque chose justement sur la carte et le territoire, et puis ça m'a fait réfléchir en disant qu'effectivement la carte est vraiment quelque chose Ben c'est des urbains, c'est des personnes qui vont qui sont plus moins proches de la nature, qui vont s'accaparer la carte, qui vont s'intéresser à la carte. Et lui me disait que justement c'est pas la carte qui fait le territoire, c'est le territoire qui fait la carte. Et lui donc son Ita Sinan donc son pour lui Montréal et son Ita Sinan aussi, on s'entend là. Et donc c'est quelque chose qui est c'est que tout part de là. Et de plus en plus effectivement j'adore les cartes, j'adore me plonger dans les cartes, je lis les cartes comme des livres. Justement, grâce à la toponymie, on peut recréer toute l'histoire d'un lieu grâce à la toponymie d'un donc d'un, d'un, ben de, des rues, des parcs et ainsi de suite. C'est d'ailleurs un exercice que j'ai fait beaucoup dans Pinsonia, ça tu pourras le voir. Et puis, et c'est intéressant de voir les cartes, mais par contre, ben, les cartes ne disent pas tout et les cartes ben, sont effectivement ben, très intéressantes, mais d'avoir pour avoir une vision. Le fait que Back River, justement, ici, pour la rivière des Prairies, était quelque chose que les anglophones utilisaient, ben, c'est ça, c'est clair que ben, j'y vois, évidemment, eux n'étaient certainement pas intéressés à appeler des prairies, en sachant que c'était un Français, Monsieur des Prairies, là, le Sieur des Prairies. Donc, du coup, puis c'était intéressant de voir qu'ils avaient préféré, du coup, beaucoup plus quelque chose qui se rapprochait du langage autochtone. Mais c'est clair que c'est. Ben, la réponse à ta question, c'est un mix de tout parce que ben, sur les cartes, on va voir évidemment beaucoup de détails qu'on ne pourra peut-être pas voir sur place parce que effectivement, il y a des fois des endroits qui ne sont pas accessibles quand on est sur le terrain. Là, on a un très bon exemple. Ce terrain, j'imagine, un jour ou l'autre, va être vendu ou je ne sais pas quoi. Et à moins que la mairie que quelqu'un dise ah ben non effectivement c'est un lieu important de Montréal puis on va en faire un petit parc et donc du coup il y a ben voilà l'accès à ce lieu sera perdu c'est donc un mix des deux. On peut avoir souvent des recherches sur internet, ça suffit pas. Tout ce qui est écrit dans le livre d'Eugène Achard sur justement ce petit lieu-là puis le sentier qui monte à Hochelaga, ben, on le trouve nulle part ailleurs que dans son livre, grosso modo. Donc c'est clair qu'une multiplicité des sources, ça aide. Et à propos de Google Maps, une petite anecdote qui est amusante. En fait, juste avant de faire mon tour de l'île, je mettais à jour un petit guide de voyage chez Ulysse qui est Marché à Montréal et ses environs. Donc, qui m'a aussi beaucoup aidé pour préparer mon petit tour de l'île. Et en fait, pour mettre à jour ça, je cherchais avant d'aller sur place des petites informations, dont entre autres l'accès à l'île Lapierre, qui est en fait l'île Lapierre, c'est partie d'un parc nature de l'île de Montréal. C'est un peu plus à l'est d'ici, c'est à l'est du parc de la Visitation où vous irez tout à l'heure, peut-être 1 km à l'est, un truc comme ça. Et en fait, c'est une petite île donc, qui fait partie de l'archipel d'Hochelaga et qui fait partie d'un parc nature du ruisseau de Montigny. Que tu connais très bien, je pense. Mais en fait, l'accès à l'île Lapierre est complètement interdit depuis des années. Puis j'essayais de savoir depuis quand, et ainsi de suite. Puis je vais sur Google Maps, je me mets en Street View, puis je regarde. Donc je suis sur le boulevard Gouin, puis je regarde, puis là, je vois l'île Lapierre, puis je vois juste. Il y avait l'entrée qui était barrée, effectivement, puis 10 mètres à gauche de l'entrée, un gros trou dans le grillage sur Google Maps. Je dis, ah tiens, c'est intéressant. Puis effectivement, quand j'ai fait mon tour de l'île, ce trou existait encore dans Google Maps. Puis il y avait un sentier après le trou qui était puis vraiment un gros trou dans le grillage. Puis le sentier extrêmement bien tracé dans la forêt. Donc c'était un sentier, ça montrait bien que c'était utilisé depuis des années. Et donc voilà, donc ça permet d'aller sur l'île Lapierre et de profiter de cette île qui est en cours de revitalisation. Actuellement. Et en fait, en relisant, mais bien plus tard, il n'y a pas très très longtemps, le carnet d'Yves Lacroix, je me suis aperçu qu'en 2002, il avait utilisé le même trou pour aller visiter l'île Lapierre. Donc voilà, c'était comme quoi, c'est ça, c'est un mix peut-être de sources qui permet certainement d'aller chercher un peu plus loin que juste les cartes, ou juste les livres, ou juste ce qu'on voit sur le terrain. Ouais.
Littéraire, géopoétique, là, sur les anciens ruisseaux de Montréal. Et puis là, on a vraiment un très beau lieu. Ouais.